Bonjour et bienvenue à Impact Pod, donc votre dernier clubhouse de rugby qui est toujours ouvert pendant ce moment de Covid. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe de copains qui adore le rugby. Je suis joint par deux grands hommes de Twin Towers, des deuxièmes lignes, notamment Charlie Bayer, donc capitaine et joueur de Massif Central.
Ouais, absolument, deuxième ligne qui a eu la chance de jouer à tes côtés il y a... Il y a un petit moment maintenant.
Et donc, notre pro de notre petit groupe, ancien joueur de Maître Racing, Théodore de Saint-Rémy.
Oui, Maître Racing, pas seulement, hein, mais avec voilà, beaucoup de fierté d'avoir porté ces couleurs-là. Et effectivement, toujours là malgré ce confinement, et ça fait d'autant plus plaisir de vous entendre.
Et la plus jeune, mais normalement le plus rapide de nous quatre, Alban Vorel, qui joue centre pour les Pink Rackets de Stade Français.
Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial confinement. Alors effectivement, à la différence de Théo, je ne joue pas pour le Racing, mais bien pour le Stade Français avec les Pink Rackets.
Mais on n'a rien contre le Stade Français.
Ah bon ? Ah pardon, j'ai...
La bonne nouvelle, c'est qu'on s'entend super bien. On est là, on a un épisode un peu bonus spécial pour vous, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, cette semaine, où là, on va parler de nos 15 préférés de l'équipe de France. Donc, je pense qu'on va attaquer ça. Mais tout d'abord, en fait, les gars, j'ai trouvé où sont passés tous les rouleaux de PQ. En fait, c'était pour les faire des vidéos de rugby, apparemment.
Ah oui, alors il y a des gens effectivement qui font des skills avec des rouleaux de PQ. Moi, j'ai vu les skills de Carlos Spencer, je ne sais pas si vous l'avez vu, la Schistera qui fait, peut-être 35 mètres et qui finit dans un panneau de basket. Carlos Spencer, l'ancien ouvreur des All Blacks, qui a de beaux restes. Donc, je vous invite à taper ça sur Google, vous allez halluciner.
Moi, j'ai vu pas mal d'équipes amateurs et amatrices de faire des petits challenges et des vidéos, notamment mes anciennes coéquipières des Pierre Neschkak, qui connaissent bien l'équipe du Massif d'ailleurs, mais elles ont fait des petites vidéos et ça circule un peu sur tout le réseau amateur, c'est assez rigolo.
Écoute Alban, je n'ai pas vu les vidéos de tes copines qui apparemment connaissent le Massif, mais ça me fait du coup deux raisons pour aller le checker. Non, j'ai vu un peu pas mal de trucs défiler, je pense que c'est une petite façon de rester en contact pour pas mal de clubs avec les copains où chacun est confiné. Et c'est vrai qu'il y en a des plus créatifs que d'autres. Mais ça m'a bien fait marrer certaines vidéos que j'ai vu passer sur Internet.
Oui, dis donc Thierry, outre-Atlantique, là, à part le cinéma permanent de Donald Trump... La banqueroute du rugby, qu'est-ce qu'on en dit ? On en parle ou on n'en parle
écoute,
pas ?
Écoute, j'étais un peu désolé d'entendre ça, mais apparemment USA Rugby déclare Chapter 11, donc ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas assez de sous pour continuer en ce moment. Donc apparemment, c'est parce qu'en 2018, il y avait un match Pays de Galles, Sudaf, Washington DC, mais déjà dans un pays où il y a rugby, c'est vraiment pas connu. Déjà, Pays de Galles, je ne suis pas sûr combien d'Américains connaissent vraiment qu'il y a un pays qui s'appelle Pays de Galles. Wales, déjà, c'est les baleines.
Ils doivent prendre ça pour les baleines.
Voilà, donc contre des Sudafs, en gros, les Sudafs, c'est des méchants en arme fatale 2, je pense. Donc, ils n'ont pas compris que c'était quand même un super bel match à aller voir, quoi. Donc, il n'y avait que 20 000 spectateurs, donc ils ont perdu beaucoup de sous. Et après, je pense que j'ai vu 850 000 euros perdus cette année pour préparation de Coupe du Monde, quand même. Donc, j'ai lu un peu sur Internet et apparemment, ça fait des années qu'il fallait que ça change et peut-être ça va relancer les choses et ça va changer.
J'espère que c'est pas à cause du salaire de Bastard. Quand même qu'ils font faillite.
C'est possible.
On ne sait pas. Quand même, Théo, en France, on a eu beaucoup de nouveautés aussi.
Ouais, des nouveautés. Je ne sais pas, il y a un peu de bruit. L'actualité sportive étant tellement triste actuellement, on essaye d'occuper le terrain. Donc là, les décisions qui ont été prises par la fédération dans le monde amateur, effectivement, de figer les championnats qui vont s'arrêter, donc de figer aussi les montées et les descentes. Donc mon ancien club, la CBB, qui était invaincu, qui est dans la poule de Charlie, on parlera pas des scores quand Charlie les a affrontés.
C'est mes deux jaunes de la saison. Allez, retour. C'est les deux cartons jaunes.
Va monter en Fédéral 2. Donc il y a beaucoup de clubs comme ça. C'est extrêmement particulier. Pour tout le monde, c'est un peu triste de pas avoir les phases finales qui sont toujours des matchs à la saveur très particulière dans la tradition du rugby français. Mais voilà, je pense que c'est une bonne décision. Et puis dans le monde professionnel, il y a une passe d'armes entre ceux qui souhaitent qu'il y ait une fin à ce championnat et ceux qui souhaitent qu'il n'y en ait pas. Donc on a vu là le président Merlin, président de La Rochelle, qui a écrit une lettre, qui a fuité dans la presse, Lorenzetti qui prend le micro pour prendre la position adverse. Bon, moi ce que je trouve, c'est que tant qu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer le confinement, il est complètement idiot de prendre des postures un peu guerrières sur ce sujet. Je pense que si début mai, les joueurs peuvent recommencer à travailler, pourquoi pas mettre une mini-préparation et trouver une phase finale intelligente qui permet de faire une fête du rugby au mois de juin. Moi, je trouverais ça sympa. Maintenant, je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus. Et je trouve que ce n'est pas tellement une période dans laquelle j'ai envie d'entendre les gens se disputer. Moi, voilà. C'est ça qui m'énerve un peu.
Charlie, est-ce qu'il y a des changements pour ton club à toi ?
Ouais, un peu comme a dit Théo, c'est un peu étrange parce que tu as une déclaration de statu quo, mais en même temps, tu vois qu'il y a du cas par cas. Après, je pense qu'ils arrangent un peu les clubs selon leurs ambitions et leurs capacités pour l'année prochaine. Estimé quoi. En effet, t'as la CLB qui va monter, c'est bien pour eux parce qu'on s'est fait marcher dessus cette année, donc qu'ils aillent un peu plus loin,
ça
me fait plaisir, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Oui, ça me fait plaisir de les voir partir. Non, mais comme je dis, mes deux cartons jaunes c'était contre cette année, donc c'est que j'avais de la tendresse pour eux quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir. Je pense que ça va leur faire une montée un peu bizarre. Et évidemment, c'est le cas de pas mal de clubs amateurs en France. Je pense que tout se fait un peu au cas par cas. Parce que, pour reprendre l'exemple de notre poule, il y a la CLB qui monte quand même. Mais le dernier de notre poule, qui lui a fait la saison inverse, à savoir se prendre des rousses par tout le monde, eux restent maintenus. Donc je pense que c'est un peu. Ça va être pour le coup très, très français. Ça va être des arrangements d'un peu partout. Voilà. Un peu compliqué, quoi.
Et Alban, pour toi ?
Du côté des filles, c'est pareil. Tous les championnats ont évidemment été arrêtés. Et par contre, il n'y a pas de montée ni de descente. C'est-à-dire que c'est resté... comme c'était en début de saison, en fait, il y a juste eu des changements au niveau de l'élite pour l'année prochaine. En fait, pour permettre de faire des phases de play-up et de play-down. Là, cette année, on avait donc deux poules de 8. Et l'année prochaine, on aura 4 poules de 4, ce qui va raccourcir un peu ce qui va avancer les phases finales pour ensuite avoir un championnat et des phases finales plus équilibrées en fait en deuxième partie de saison. Donc voilà, ça va être un peu la nouveauté, mais on verra. Après, mon côté fédéral 1 et sur les fédérales 2, il n'y a pas de changement, et l'élite 2 non plus, il n'y a pas beaucoup de changements.
Mais est-ce que tu aimerais rejouer Alban en fin de saison, toi ?
Honnêtement, pour nous, ça sera sur du 7 ou des matchs amicaux, donc il n'y a aucun enjeu. Mais évidemment, rejouer au rugby comme si on peut le faire quand il fait beau en plus. Non, évidemment, mais nous, on aura, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura aucun match décisif, quoi. Donc ça, on peut le mettre de côté. Après, c'est dommage parce que nous, on était sur une bonne saison là, avec le stade, et on avait un peu pour ambition d'aller jouer les phases finales et potentiellement chercher un bouclier de championne de France. Donc voilà, c'est dur aussi de devoir recommencer une saison et de repartir un peu à zéro, quoi.
Donc, une chose, on n'est pas très sûr en ce moment, c'est si on va finir au top 14, ou top 15, ou top 16, ou top 32, je ne sais pas, l'année prochaine. Est-ce qu'on a des idées, ou est-ce qu'on fait, comme tu as dit Théo, on attend tranquillement pour voir comment ça s'arrange?
Il faut attendre. J'ai l'impression que ça va être un top 15, l'élite, mais ça change tous les jours. Hein. C'est comme les trucs gouvernementaux, donc voilà, restons cool.
Ouais, tant qu'il n'y a pas de truc fixé, il n'y a pas que notre sport qui est concerné, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a les festivals, par exemple, qui sont un peu dans le même problème. C'est qu'il y a plein d'hypothèses qui peuvent être faites, il y a plein d'idées à avoir, il y a plein de voilà, top 15, top 16 l'année prochaine, monter, pas monter, est-ce que la Pro D2. Il y a plein d'idées à avoir, mais malheureusement, tant qu'on ne sait pas le moment de l'arrêt de ce confinement et surtout comment ça va redémarrer, si dès le début, si ça finit là, dans un mois, est-ce que dès le début, on pourra avoir des événements dans des stades ou est-ce que ce sera progressif. Tant qu'on ne sait pas toutes ces infos, je pense que c'est un peu que des idées lancées comme ça qui reposent pas sur des éléments très fiables. Quoi.
Et je suis désolé d'entendre ça, mais je pense que j'ai entendu que Hellfest, pour toi, Shirley, c'est annulé, c'est bien ça ?
C'est beaucoup trop tôt pour que j'en parle. Bah ouais, ça fait partie. C'est un peu à ça que je pensais quand je faisais les festivals, mais c'est un peu con pour eux parce que eux théoriquement le le début de leur préparation, c'est le 15 avril, donc en fin de confinement normalement. Mais tu as un peu le créateur de ce festival qui est en train de dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait. Enfin, là, on dit le 15, donc on part, on commence à faire comme si on reprenait le 15, mais on sait tous très bien qu'il va encore y avoir des annonces et que ça ne marchera pas.
T'inquiète pas, Charlie, on va faire un Hellfest du rugby au mois de
ça
juin.
Me va, alors.
On y croit.
Des petits pogos avec des gros piliers géorgiens, ça va être bien.
Ça va, c'est très validé. Allez les gars, on était là pour parler de nos 15 de France préférés. On y va ?
Eh ben, on est parti.
Pack de potes, terrain 10. Et donc, comme dans cette période de confinement, nous n'avons rien de mieux à faire que de se satisfaire de nos bons souvenirs de rugby, on a décidé de faire un petit tour dans le passé et d'examiner l'ensemble des matchs du 15 de France pour constituer notre équipe de France de rêve, notre 15 de France de rêve, qu'on va vous partager avec la team et on espère que vous serez d'accord ou pas d'ailleurs avec nos choix. Mais,
très difficile, hein. Exercice vraiment très difficile. Au début, je trouvais ça génial et je me suis arraché les cheveux parce que je trouve ça très dur.
Moi, en fait, comme j'ai découvert le rugby tard, tous mes joueurs, ils ont joué après, 2002 ou quelque chose comme ça. Donc, je pouvais pas voter pour, on va dire, Serge Blanco, que j'ai jamais vu jouer, même si apparemment c'est un des grandes stars de rugby, parce que j'ai jamais vu. Donc, pour moi, je suis un peu restreint à ce niveau-là.
Tu sais, Ticket, t'inquiète pas, moi aussi, je me suis rendu compte que j'étais complètement un rugbyx, en fait, parce que mes souvenirs de rugby semblent ne commencer qu'en 2007. Donc, je fais partie de la génération, quoi. Il y a eu les footix en France 98.
J'allais dire, ouais, je pense qu'en étant la plus jeune aussi, ça va être compliqué pour moi de remonter dans le temps.
Je vais vous faire vieillir un peu, vous inquiétez
mais
pas.
Mais Théo est là pour nous.
Si on démarrait alors avec les piliers, en fait j'avais une question à la base parce que quand j'ai regardé un peu les titres de chaque poste en anglais, quand même des piliers, il y a un nom différent, il y a the prop, ok, il y a tight head prop, donc c'est le numéro 3 il me semble, qui a la tête entre deux autres personnes, et then open head prop, c'est le mec qui a un peu la tête à l'air, on va dire, et un côté de sa tête qui n'est pas couvert, on va dire. Mais on n'a pas en français cette différence ?
Si, en français on appelle ça pilier droit et pilier gauche, donc le pilier gauche c'est celui qui a la tête à l'extérieur.
D'accord,
c'est plus okay. Simple.
Il y a moins de créa ouais, dans l'appellation.
J'aime bien le pilier tête à l'air, ça, je trouve ça pas mal.
En général, le pilier droit est plus costaud. En général, c'est pas une valeur absolue, mais c'est le plus costaud. Parce que c'est celui qui a effectivement les deux épaules prises et qui constitue un peu la poutre de l'édifice mêlé. Quoi.
D'accord. Donc si on commençait avec vos piliers, qui est-ce que vous avez choisi ?
Alors, moi, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, j'ai un peu un 15 des intellectuels, en fait. Parce que. et je pensais qu'il fallait absolument, noter le passage en équipe de France de notre Sylvain Marconnet, qui, pour les amateurs du Stade français, il est resté super longtemps au club aussi. Et c'était ouais, je pense que c'était un mec qui était c'était un mec qui était super chambreur dans les mêlées, et c'était un mec qui faisait dégoupiller pas mal de mecs au vice, quoi. Voilà, donc moi c'est pour ça que je l'appréciais, c'est pour ça que je l'appréciais.
Alors typiquement Sylvain Marconnet, c'est un joueur qui jouait à droite et à gauche, hein. Ils sont pas tous polyvalents, lui c'était son cas. Effectivement, c'est un grand joueur.
Et en plus c'est un peu les derniers joueurs les derniers piliers à Bedel, parce qu'on les voit plus trop sur les terrains maintenant. Hein. Les piliers à cabane.
Ça veut dire quoi, à cabane ?
À cabane, c'est celle
que tu portes
devant.
Ah oui,
le
ventre, quoi, c'est ça ? D'accord.
Ouais, c'est ça. C'est ceux qui portent ce cadeau à l'envers, tu vois.
Ah, je connais bien ça, moi.
Ouais. Moi, je te rejoins un peu sur Sylvain Marconnet, pas parce qu'il était du Stade français, enfin, pas que, mais j'aimais bien, effectivement, son caractère. Et en plus, j'avais l'impression qu'en dehors, ce mec, c'était vraiment un bon gars, quoi. C'est-à-dire, il inspirait un peu... Après, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Peut-être que Théo, tu pourras nous en parler, mais... Je trouvais qu'il avait l'air sympathique comme garçon. Mais
oui, bah, Sylvain Marconnet, en plus, c'est un mec un peu à l'ancienne. Il a fait une petite sortie en solidarité avec Joe Marler, qu'on a mis sur le Facebook, parce que lui, il dit « Non, mais bon, ça va, quoi. 10 semaines pour ça, c'est n'importe quoi. Je suis Marler », il a mis. Donc, voilà, un petit clin d'œil à Sylvain Marconnet.
Théo, t'avais d'autres piliers pour toi ?
Oui, alors moi, j'ai été chercher un peu dans le rugby un peu plus ancien, parce que je me doutais que, comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous auriez des piliers plus récents. Donc, je me suis intéressé à deux piliers des années plutôt 70, qui sont des gars, enfin 70 et un peu 80, qui sont des gars vraiment extraordinaires. Donc, Armand Vacrin, pilier gauche, qui était un joueur de Béziers, qui a fini tragiquement en 93, à une dans une partie de roulette russe. Donc c'est un joueur complètement légendaire qui a été 10 fois champion de France avec Béziers dans les années 70 et au tout début des années 80. Et il y a d'ailleurs un podcast que je vous recommande qui s'appelle Le Canon sur la Tempe, qui est fait par un gars qui s'appelle Alexandre Moniol. Vraiment, il faut écouter ça. On le mettra sur le Facebook. C'est plusieurs épisodes d'enquête sur la vie d'Armand Vacrin, qui était un joueur et un homme vraiment extraordinaire, malheureusement disparu tragiquement. Donc, en plus, j'aime bien, il a une petite stat. Il est champion de France en jouant pilier gauche avec son frère Élie, qui jouait talonneur en 72. Donc, champion de France avec son frangin, je pense qu'effectivement, tu peux pas faire pas mieux. Et puis, en pilier droit, c'est un joueur qui est à peu près de la même génération, mais un petit peu après, qui s'appelle Robert Paparambord, d'abord qui a un nom qui me fait rêver. Et en plus, c'était un joueur assez innovant en termes de piliers, parce que c'était vraiment un manieur de ballon. Donc c'est un peu le précurseur des piliers à la Peter de Villiers, après ces joueurs-là qui avaient aussi des belles qualités de joueurs de champ. Et c'est en plus le pilier droit du Grand Chelem 77. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était aussi un super bel hommage, avec également un magnifique fait d'armes, qui est la première victoire du 15 de France en Nouvelle-Zélande en 79. Il joue pilier droit sur ce match-là. Donc voilà, moi, Robert Paparambord, Armand Vacrin. Donc à vos Wikipédia, à vos YouTube, il y a plein de trucs. Régalez-vous, c'est des légendes du rugby.
D'accord. Bon, moi-même, j'ai choisi, parce qu'il est gros, il est beau, il est barbu, j'ai choisi Antonio, parce que quand même, c'est un grand homme. Et après, dans l'autre sens, j'ai bien aimé, c'était un mec que j'ai toujours fait citer, c'est Thomas Domingo, parce que c'est l'opposé, en fait, il est tout petit. Mais en anglais, je dirais un dorm room fridge. Donc, ça veut dire que quand tu vas à l'université, t'as un tout petit frigo, qui quand même, c'est un carré. Et pour moi, chaque fois que je voyais lui jouer, je pensais à un dorm room fridge, un petit frigo, quoi. Donc, si on passait rapidement au talonneur, je trouve que la France, vraiment, on est gâté en talonneur depuis 20 ans, quand même.
Moi, j'en ai un en tête, particulièrement. C'est Raphaël Ibanez. Pour moi, c'est l'ultime.
Ouais, bah, je suis d'accord. Moi, je vais avec toi sur le même profil. Vraiment.
Ibanez, oui, mais c'est la facilité. Moi, pour continuer dans mes intelligents, je citerai juste Moscato, qui a cette belle petite stat de faire un tour en équipe de France juste le temps de placer une fourchette. Je pense que ça représente bien nos avants français.
Mais quand même, on avait eu Guillaume Guirado, bien sûr, Servensky, si j'arrive bien à le prononcer, et maintenant le Camicha, c'est assez impressionnant. Depuis 20 ans, on est gâté au niveau de talonneur.
Zarzewski, il n'avait pas eu beaucoup de chance, hein, parce qu'à chaque fois, il avait plus fort que lui en face, quoi.
Il doit avoir quand même une quarantaine de sélections, c'est quand même pas mal, hein.
Ah ouais, non, bien sûr, mais il est quand même tombé. Ouais, il a pris cette abondance de talonneur un peu en pleine face.
Mais c'est vrai que Raphaël Ibanez, bon, c'est la fin des années 90, tournoi 97-98, la demi-finale du Mondial 99, où ils battent les Blacks. Il est le capitaine de cette équipe-là, et c'est un joueur qui n'était pas hyper impressionnant physiquement, mais par contre qui avait un charisme et des qualités de meneur d'homme qui en ont fait le grand bonhomme de cette période-là. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que dans le staff de l'équipe de France, je pense qu'il compense un petit peu les faiblesses de Galtier sur cet aspect des choses, en étant certainement le catalyseur humain du groupe. Et voilà, c'est ses qualités.
Bon, on a la chance d'avoir deux deuxièmes lignes avec nous. Allez, pour les deuxièmes lignes, vous avez choisi qui ?
Bah écoute, moi je ne vais surprendre personne. Il y avait d'abord Papé, évidemment. Alors juste pour l'anecdote, je sortirai sa petite stat de finale de Coupe du Monde 2011, où il a mis exactement, vous regarderez le chrono, 30 secondes avant de mettre sa première baffe. Et je trouve ça... voilà, bah c'est très beau, quoi. Ça résume bien l'homme, ça résume bien l'homme.
J'ai peur qu'on n'ait pas fait les mêmes critères de sélection avec Charlie, en fait, pour qu'on
je savais que vous en aurez d'autres, et je me suis dit, allons chercher...
C'est l'intérêt du collectif.
Et aussi, du coup, pareil, sur les critères un peu, il y avait un mec qui était vraiment un vrai guerrier. Il a joué peu pour l'équipe de France, mais qui était vraiment un dur au mal, Thibaut Privat. Voilà, que c'était un deuxième ligne que je respectais aussi beaucoup, avec une vraie gueule de fracassé, de mérovingien.
Un bel Auvergnat.
Voilà, qui jouait pour Clermont et que c'était un joueur que j'aimais beaucoup aussi.
Non, moi, ça a été très dur comme choix, mais bon, j'ai été chercher Fabien Pelouse, qui est un joueur qui à la fois a loupé quelques grands matchs, mais qui a quand même voilà, 115 sélections en équipe de France avec une régularité assez extraordinaire sur la décennie dans laquelle il a joué. Il a souvent été capitaine, et puis je trouve que c'est. Voilà, c'est un joueur qui dégage aussi une certaine tranquillité et qui a fait voilà, une super belle carrière. Pour l'accompagner, ça a été un peu dur parce que j'aurais pu le mettre troisième ligne aussi. Mais je prends Abdel Benazi, qui est vraiment un joueur qui m'a fait rêver dans les années 90, qui était un profil atypique, qui était un joueur d'origine marocaine, qui venait de Oujda, arrivé en France fidèle au club du SU Agen pendant toute sa carrière. Et c'est un joueur qui a eu une magnifique carrière en équipe de France aussi, qui a même été capitaine. C'était le premier joueur d'origine étrangère capitaine de l'équipe de France. Il y a quelques matchs d'anthologie avec lui. Alors c'était un gars un peu atypique, qui n'avait pas une grande gestuelle, etc., mais qui était exceptionnel dans son engagement, qui avait une capacité athlétique tout à fait hors du commun et qui a fait voilà, une super carrière. Donc tous les deux, ils ont d'ailleurs dû jouer tous les deux ensemble, je pense, à ce poste-là, certainement, peut-être à la fin de la carrière de Fabien Pelouse. Voilà, mes deux préférés.
Mais moi, je te rejoins totalement,
Et bah
Théo.
super.
Non, mais Benazi, je me souviens que quand j'étais petite, c'était un joueur qui m'impressionnait beaucoup. J'avoue que ce sont des vagues souvenirs qui parlent ici, mais j'étais assez sous le charme de ce joueur-là. Voilà, je complète pas.
Moi, je rajouterais juste que Pelouse s'est dégagé de la sérénité, mais il faisait quand même un peu peur. Hein. Je pense que les équipes qu'il affrontait, il faisait avec sa gueule de boucher et il rigolait pas trop dans les rocks.
Il faisait pas les voyages à vide.
Voilà, ouais, il y avait aussi un côté bûcheron.
Ouais. J'ajusterai juste Lionel Nallet aussi.
Ouais, qui a été capitaine aussi.
C'est vrai, il a fait une très belle carrière aussi. Exact.
En fait, mon position favori, c'est que quand même troisième ligne. Et ma tête, dans ma tête à moi, TK, c'est en fait, il pèse 100 kilos et pas 120. Hein, donc, j'aimerais bien être. Je voulais toujours être un numéro 6 ou un numéro 7. Donc, pour numéro 6 et 7, les gars.
Moi, mes 6 et 7 sont très opposés. Je reste un peu dans la lignée de Boucher, Boucher un peu sale. Je pense que c'était un plaqueur. Je parlais de Betsen, qui était Serge Betsen, qui était enfin, un animal, quoi, un monstre d'exemplarité du devoir de s'y envoyer. C'était un mec, j'ai souvenir l'image comme ça de le voir limite dans les vapes et continuer à plaquer à tour de bras. Donc, vraiment un troisième ligne plaqueur émérite. Et évidemment, mais là, je parle en premier, mais je pense que je vais être suivi. Il y a du Sautoir qui est en troisième ligne, un capitaine. Je crois que c'est le plus grand nombre de capitanats en équipe de France. C'est un mec, c'est une tête bien faite dans un corps bien fait et un rugby maîtrisé. Voilà.
C'est joliment dit.
Rien à ajouter.
Ouais, j'ai essayé.
Non, moi, je suis d'accord avec Charlie sur Thierry du Sautoir, qui est vraiment bon. À ce poste-là, c'est la classe absolue. Moi, je l'avais vu s'exprimer en plus une ou deux fois. Le mec, il est polyglotte et tout. Enfin, le mec, il sait tout faire. Il s'appelait le Black Destroyer. Il a été élu meilleur joueur du monde après la Coupe du Monde de 2011. Voilà, qu'ils auraient pu gagner. Tout le monde s'en souvient. Donc, joueur d'exception. Et puis, alors à l'opposé, j'ai été chercher moi beaucoup plus loin dans l'histoire du rugby français. Je choisis un joueur qui s'appelait Jean Prat. Qui est un joueur qui a été en équipe de France dans les années 50 et qui a été quand même au FC Lourdes pendant toute sa carrière, surnommé par les Britanniques Mister Rugby, qui a été fêté par les Britanniques à l'annonce de la fin de sa carrière. C'était un match, je crois, au Pays de Galles. Premier joueur vraiment médiatique de ce sport, sachant tout faire. À l'époque, les troisièmes lignes étaient un peu plus polyvalents. Il était buteur également. Il a été pas mal de fois capitaine entre 53 et 57. Et il a une phrase mythique d'un match à Colombes où ça commençait à flancher dans les dernières minutes contre les Gallois, où il a dit à ses troupes, bon, les British nous ont fait chier pendant 100 ans, vous allez tenir 5 minutes, s'il vous plaît. Et puis ils ont tenu, ils ont gagné. Voilà. Et puis pour la petite anecdote, il avait joué avec Jacques Chaban-Delmas une cape en équipe de France. C'est autre chose, ça c'est très marrant, mais Chaban Delmas était un grand sportif, c'était un très bon joueur de tennis et un joueur de rugby qui jouait à l'aile et qui a une cape en équipe de France. Voilà, donc je clôt le chapitre,
la page
la page
d'histoire.
d'histoire.
Alban?
Bah moi ça m'énerve parce que j'avais l'impression de vous copier, mais c'est vrai que j'avais un duo Betsen du Sautoir en tête. Après, j'ai pensé à Olivier Magne aussi, qui a pu faire quelques bonnes apparitions.
Ah ouais, c'était un joueur extrêmement racé, très rapide, avec des super, super bons balles en main. Non, extra comme joueur, ouais.
C'est ça.
Il y avait aussi le basque, là, avec le nom qui est totalement imprononçable pour un Américain.
Arenor Doki.
Ah, vas-y, avec son prénom.
Ouais. Ah ouais, je l'ai mis en 8, moi, tu vois.
Ouais, ah, okay. Moi aussi, mais il est dans mes deux joueurs en 8, j'ai pas réussi à les départager.
Ouais, dur, hein. Dur. Hein.
Bah pour les petites histoires sur Serge Betsen, en fait, c'est le premier joueur, quand j'ai commencé à regarder le rugby, c'est la première personne, j'ai regardé que lui, en fait. Et donc, ça énervait ma femme, parce que chaque fois qu'il plaquait, je disais « Serge », comme ça. Et en fait, à la fin, tu dis 20 fois par match « Serge », en fait, parce qu'il plaque 21 fois, quoi. C'était vraiment, vraiment impressionnant.
Bah, il a son visage en dit long sur... Il y a sa carrière qui est écrite sur sa gueule, quoi.
C'est sûr.
Tout à fait.
The Nigerian Nightmare and the Dark Destroyer, vraiment, c'est un super choix.
Ouais, c'est ça.
Allez, si on passait aux comédies en anglais, number 8.
Bah du coup, on va laisser Alban commencer, non ? Pour pas qu'on les reproche de copier.
Ce serait sympa.
Bah, je vais dire... Moi, je vais dire Mathieu Bastaro. numéro 8. Bah, c'est vrai qu'Arainer Doki, c'était un bon 8. Juste pour la petite anecdote, je vais dire... Louis Picamol.
Ah, oui, c'est sûr.
Mon frère m'appelait comme ça quand j'étais plus jeune.
Sympa.
Voilà, je pense à lui sympa, hein, parce que j'avais des qualités athlétiques très très fortes, c'est pour ça. Non, mais Picamol, moi, ça, c'est marrant parce que j'étais un peu plus déçue par ses performances dernièrement, sur les quelques dernières années, mais je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup terrorisé et qui a beaucoup surpris. Alors, c'est peut-être pas le meilleur numéro 8, mais voilà, je trouve qu'il mérite une petite pension.
Bon, super joueur, incontestablement super joueur.
Je suis d'accord avec toi.
Et puis, pour aussi, surtout pour ceux qui se souviennent en Nouvelle-Zélande, quand il avait poursuivi un photographe en lui disant « I'll tell you to stop, wait, to continue ». Sa maîtrise de l'anglais, j'avais trouvé ça admirable, quoi, un homme exemplaire.
Et Théo, pour toi?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé Imanol Arainer Doki, qui est effectivement un joueur d'un talent fou, avec un gabarit qui n'était pas le plus costaud de sa génération, mais vraiment un manieur de ballon magnifique, avec un super sens de la trajectoire, des qualités de jeu aérien notamment exceptionnelles. Et j'ai eu du mal à le départager avec un joueur qui a malheureusement eu un destin tragique, puisqu'il a été condamné pour le meurtre de sa femme. Mais c'est un garçon qui s'appelait Marc Cécilion, qui était un joueur emblématique du club de Bourgoin-Jallieu, qui était un joueur vraiment hyper impressionnant en numéro 8 début des années 90. Physiquement, il surnageait complètement. Il fait la Coupe du Monde 95. Et voilà, dès qu'il était dans un bon jour, il était tout simplement au-dessus et inarrêtable. Malheureusement, voilà, sa vie a basculé. C'est un homme qui a fait de la prison, etc. Aujourd'hui, il est sorti. Mais voilà, il a foutu sa vie en l'air. Donc ça a été une terrible histoire aussi pour le club de Bourgoin, pour le rugby tout entier. Mais moi j'aimais le joueur, voilà. Donc j'ai eu du mal à pas le mettre parce que c'est un mec qui m'avait fait rêver avant de décabocher complètement, malheureusement.
Ouais, ça l'histoire, hein. Moi mon 8, j'arrive en dernier, donc c'est moi qui copie. Alban, je comprends ta peine jusqu'à maintenant. Moi c'est Arainer Doki. Ouais, c'était un mec dit-on qui avait un melon à la hauteur de son talent, mais ma foi, si on avait son talent, on aurait peut-être tous son melon. Un mec bon sur les touches, ballon en main, impressionnant. Physiquement je le trouvais quand même ouais, enfin, il était beau à voir jouer, quoi, pour pas faire trop.
Tout à fait, tout à fait. Joueur hyper élégant, absolument.
C'est ça, ouais, ouais. Racé.
Ben, les gars, je peux pas laisser passer le barbu de l'équipe de France, quand même. Bon, je vais le placer là, parce qu'il a quand même joué un peu au 8, donc j'ai vu le Chabalou.
Non, c'est vrai. On l'a oublié.
J'avais peur que personne ne cite. Je suis quand même content que notre Chabalou soit dans le 15. C'est sympa. C'était pas le plus grand joueur de sa génération, mais c'était un joueur unique en son genre. Qui a en plus mis un coup de projecteur fantastique sur le rugby avec ses exploits. Et en plus, c'est un très bon mec. Moi, les échos que j'ai de gens qui le connaissent disent que c'est vraiment un super mec. Moi, j'étais à l'armée au bataillon de Joinville avec des mecs de Bourgoin qui étaient de sa génération. Ils disaient que c'était un mec très simple, très sympa. Et je trouve que même aujourd'hui, avec son succès, parce qu'il fait de la télé et tout ça, je trouve que ça reste un mec qui a l'air sympa. Donc j'aime beaucoup ce profil-là, du mec qui a explosé mais qui est resté lui-même. Donc chapeau à lui, j'adore ce gars-là.
Ouais, mais c'était son côté animal aussi qu'on adorait, c'est les gueules qu'il tirait quand il martyrait ses adversaires, c'est quand il pète la mâchoire de Mazori qui repasse sur lui pour lui faire pour lui signifier que c'est bien lui qui lui a pété la gueule. Pour moi, le meilleur truc de la meilleure vanne de Chabal, c'était Van der Nerf qui sortait du terrain en se tapant sur le torse là, à chaque fois. Et Chabal lui met un espèce de tampon de l'espace et sur lui, il se penche sur lui et il se tape le torse comme ça en rigolant. J'avais trouvé, je pense que c'était un mec très énervant.
Rappelons-nous que son surnom en Nouvelle-Zélande, c'était Caveman quand même.
Ce qui lui allait très bien.
Oui, c'est sûr. Donc, allez, si on passait au numéro 9, le quarterback, on va dire, des avants, vous avez choisi qui, Alban?
Bah, notre sélectionneur actuel, hein. Écoute, j'ai envie de te dire que Fabien Galthié, pour moi, est le meilleur, même si on peut accorder des petites pensées à un Yashvili, par exemple, mais je trouve que Fabien Galthié a été largement au-dessus dans l'intégrité de sa carrière en tant que demi de mêlée. Demi de mêlée.
D'autres choses, les gars?
Non, bah, moi en fait, c'est ce que je disais, ça voit mon truc un peu footique, ça c'est que moi 2011 j'ai quand même vachement vibré, et même si en 2011 en l'occurrence pour la finale dont je vais parler, il avait joué 10, mais je vais parler de Morgan Parra, surnommé le merdeux, ce qui en dit long, c'est un mec, un vrai driver d'avant, avec un petit gabarit, mais qui aboie sur ses gros et qui est vachement respecté par les marmules qui sont en face de lui. Voilà, il avait été super pendant le Grand Chelem de 2010 à ce poste de demi de mêlée. Sale caractère, mais très bon joueur, et voilà. Ouais.
Moi, je retourne un peu dans le passé, je continue de faire mon vieux con. Moi, je mets Jacques Fourroux, j'ai beaucoup hésité hein, entre plusieurs joueurs. J'aime beaucoup les deux que vous avez cités. J'aimais aussi beaucoup Pierre Berbizier à son poste, qui était top. Mais Jacques Fourroux, pour moi, c'est le demi de mêlée emblématique absolu. C'est-à-dire que c'est un gars qui arrive avec son mental. En étant un petit, il était surnommé le petit caporal au pays des gros, à être le patron de 15 mecs plus gros que lui. Et il a tout fait au mental. Il avait une technique individuelle qui était discutable et discutée. Il était en concurrence avec un gars qui s'appelait Richard Astre, qui était bien meilleur que lui techniquement. Sauf que lui, c'était un génie du leadership. Et c'est un joueur qui a notamment entraîné le Grand Chelem de 77, dont je rappelle qu'il a été quand même le seul Grand Chelem de l'histoire du 15 de France avec 4 matchs, puisqu'à l'époque c'était tournoi des 5 nations, avec les 15 mêmes joueurs titulaires, et ils ont pris 0 essai. Et ça, c'était signé Jacques Fourroux, qui était le guide de cette équipe. Voilà, puis qui a fait une belle carrière dans les années 80, qui était une tête de confini, mais le mec avec qui tu rêves de jouer, tout simplement. Voilà, donc moi, c'est Jaco. Il est mort en 2005, ce gars-là, et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ses profils. Voilà.
Pour moi, j'étais aussi fan de Parra parce que pour moi, c'était un peu un conducteur de bœufs. En fait, il avait 8 bœufs devant lui derrière. Allez, allez, il frappe sur les fesses pour les faire avancer. Et je trouve ça assez marrant. Je trouve que jusqu'à là, on était très gâtés, mais je trouve qu'au niveau numéro 10, un peu plus difficile pour nommer un super numéro 10 français.
Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est hyper dur d'en trouver un parce qu'on en a eu beaucoup de bons. Mais en trouver un dont on a envie de faire le champion toute catégorie, je trouve ça très dur. Donc allez-y, moi je vous dirai après, mais je serai contesté sûrement.
Bah moi j'ai été atteint par la propagande de la boucherie Ovalie et je hurlerai Lionel Boxis. Voilà.
Pas gentil de rire, Alban. Hein.
Capable du pire comme du meilleur, mine de rien, un des cuisseaux quand même les plus puissants sur les tirs au but, quoi. Il pouvait botter de 50 mètres. Un mec impressionnant. Si on va chercher sur YouTube, vous verrez plein de petites
Ah bah il y a
images.
des éloges, hein, c'est sûr.
Non, mais même de petits gags aussi. Il y avait des ratés en équipe de France. Il y avait une réception qu'il avait foirée, là, qui fait le tour un peu des réseaux, qui est rigolo. Mais aussi des trucs où, c'était quand il jouait pour le Stade français, sur ballon haut, au lieu de réceptionner, il fait un contrôle de la poitrine et sans que le ballon retouche le sol, il retape au pied et il trouve la touche, il me semble, un truc comme ça. Enfin, à la fois,
il avait des petits coups de
il
génie,
avait
c'est
des coups
vrai.
de génie, ouais,
Il
enfin,
avait
voilà,
des coups de
quoi.
génie.
C'était pour le côté fantasque un peu.
Non.
Après, on
C'était un joueur d'exception, mais on peut malheureusement pas en faire le 10 de rêve d'une autre 15 de France, Charlie. Je peux pas te suivre.
Ah, ça dépend de ce que tu rêves.
Moi non plus.
Ça dépend de ce que tu.
Ça dépend de ton rêve.
Alban, est-ce que tu as un autre choix?
Bah, je suis un peu hésitante entre deux joueurs. J'ai encore une fois mes souvenirs d'enfance et mes premiers matchs du 15 de France avec Titi la maison. Titou, Titi?
Titou, Titou.
Titou, pas pourquoi j'ai la petite. Bref, Titou la maison, qui en 99 avait fait de mémoire une magnifique.
Rien que sur ce match-là, il mérite d'être candidat, c'est clair.
Coupe du monde, voilà, c'est ça. Et après, non, après, on peut penser à Monsieur Michalak, mais bon.
Oui. Moi j'ai jamais pardonné à Michalak, c'est très sévère, je sais, mais j'ai jamais pardonné la demi-finale de 2003 que je trouve qu'il a complètement raté. Moi, il était jeune et tout ça, donc je peux pas, mais je lui en veux, j'arrive pas à m'en défaire, donc je suis resté un peu bloqué là-dessus. Donc pareil, moi je vais un peu dans le passé, je vais chercher Franck Menel, qui était un joueur avec qui j'ai eu la chance et le privilège de jouer quand j'ai démarré au Racing en 2000. Franck, il avait 40 ans. Il était coprésident du club et le club était moribond à l'époque. Il avait rechaussé les crampons parce qu'on avait un effectif de merde. À 40 ans, bon, on était qu'en Pro D2, mais il était le meilleur des 30 tous les dimanches. Il était hallucinant. Donc c'était un joueur qui avait des capacités physiques complètement hors du commun, qui a fait une très belle carrière. Il a entre 50 et 60 sélections. Il a marqué pas mal d'essais. Il a aussi joué trois quarts centre. Mais voilà, c'est un disque qui me fait rêver parce que très costaud, capable d'avancer avec une belle gestuelle des deux côtés. Il attaquait beaucoup la ligne, il faisait jouer derrière lui après les impacts. C'était pas qu'un éjecteur. Donc voilà, Franck, moi, c'est probablement un peu inattendu. Mais c'est mon petit côté Racing Man. Voilà.
Ma femme, elle dit, ah oui, j'ai rencontré Franck.
Ah oui,
ouais.
Absolument. Là, je m'en rappelle très bien. Tu peux dire à Virginie, je m'en rappelle très bien. Elle était toute émue.
Ouais, c'est ça. Ok, Alban doit nous quitter, mais avant de faire cela, Alban, est-ce qu'on peut avoir quand même tes arrières? Si on démarrait par les centres.
Alors oui, bien sûr, en plus on parle de des centres, donc c'est vraiment les positions, les postes, mes postes préférés. Moi j'adore la paire de centres Josion Rougerie, qu'on appelle les tours jumelles par leur taille effectivement assez impressionnante, mais surtout moi ce qui m'impressionnait c'était vraiment leur palette de jeu, la vitesse, à la fois la précision, la technique, les changements d'appui, enfin vraiment des centres parfaits.
Ouais, des jolies coupes de cheveux aussi les deux, ils ont des cheveux parfaits. Hein,
et des jolies coupes de cheveux, effectivement. Exactement. Et je trouve qu'en plus des centres comme ça, on n'en fait plus trop aujourd'hui, je sais pas, ils avaient vraiment une certaine classe. On n'en retrouve pas de calibre pareil, en tout cas.
En fait, pour Rougerie, il m'a fait penser d'un de mes colocataires en université, parce qu'il avait le corps d'un dieu grec, et franchement, c'était un peu énervant quand tu es allé dans un fête et tout, le mec, il est super beau avec le tableau de chocolat, bon, bref.
Ouais, c'est vrai, il fait un peu le blond, tu connais le blond de Gad Elmaleh, enfin, tu vois, c'est le mec un peu parfait.
Ouais, voilà, genre.
Et ouais, c'est un peu ça. Mais voilà, et après, à l'aile, du coup, enfin, sur les ailes, moi j'aime beaucoup Vincent Clerc parce que c'est un ailier, on va dire, un peu plus moderne. Je trouve qu'il a beaucoup su s'adapter aussi aux différentes équipes de France avec lesquelles il a joué. Et l'autre ailier, j'aurais mis Bernard Sall. Il fait partie de ces rugbymen que j'ai découvert à la télé quand je regardais les premiers matchs de rugby, enfin mes premiers matchs de rugby avec mon père et mon frère, et du coup je trouve qu'il a vraiment il a marqué les esprits, une vitesse et des changements d'appui absolument foudroyants. Et puis, en arrière, je mettrai petite hésitation, mais on va dire que je vais choisir Serge Blanco. Voilà, par sa classe, son aura, je trouve qu'il a ensuite, même s'il est un peu contestable aujourd'hui, mais beaucoup donné au rugby. Je trouve que c'est vraiment Serge Blanco, c'est vraiment un peu le premier produit marketing, entre guillemets, du rugby moderne, on va dire. Il a vraiment percé par son talent et puis derrière par pas mal d'investissements aussi dans le rugby et ailleurs. Donc voilà, je trouve qu'il a vraiment marqué sa génération et marqué le rugby français.
D'accord, on va voir si les garçons, ils ont le même avis. Allez, on dit au revoir à Alban, les garçons.
Ouais, salut Alban, ciao ciao.
Bye Alban.
Salut les gars, à la prochaine et espérons que la prochaine fois nous ferons votre 15 de France féminin de rugby.
Donc après les gars, j'avais un peu de difficulté pour décider comment faire parce que pour moi il y a beaucoup des joueurs qui jouent soit centre ou soit aile ou soit arrière. Si on attaquait au début les plus costauds, les plus avant, les centres.
Ouais, les centres. Les centres, moi, j'ai eu du mal aussi parce qu'on a une tradition de super trois quarts centre en France, mais il y en a un qui a quand même, je trouve, marqué les dernières années du rugby de l'équipe de France avec une très grande régularité, c'est Yannick Jauzion. 73 sélections, des titres empilés avec le Stade Toulousain, en veux-tu, en voilà, et beaucoup de matchs en équipe de France avec toujours une super performance. Et puis, je pouvais pas passer à côté de Philippe Sella, qui a eu 111 sélections en équipe de France, qui a été le centre des années fin 80 jusqu'à mi-90. Tout simplement un joueur exceptionnel avec une qualité de passe, une qualité de vitesse, une régularité défensive, jamais blessé. Enfin voilà, un joueur d'exception, joueur du SU Agen, très bon mec. Voilà, donc Josion, c'est là au centre, tu peux voyager là.
Complètement. Après, moi, j'ai comme du coup, j'étais plus sur d'autres critères parce que je savais bien que c'est dur à les partager et tout. Moi, toujours dans cette idée d'intelligence de jeu, hein, de petite étincelle dans le regard qui fait qu'il y a des qualités. Moi, je voyais bien une alliance Fritz et Marty, tu vois, au centre. Comme ça, t'es sûr que ça joue, t'es sûr qu'il y a de la passe et t'es sûr qu'il n'y a pas de bagarre ou qu'il n'y a pas d'animosité qui se dégage de ce match.
Fritz, je l'avais oublié, mais effectivement, il peut candidater sur le 15.
Ah,
Je suis
il
d'accord.
peut quand même. Et Marty, c'est plus pour le. Déjà, son regard bovin. Tu vois bien que c'est un mec qui s'est échappé de la cage, en fait, du 5 de devant, et qui s'est retrouvé, tu sais pas trop comment, en centre, et qui
Un peu.
distribuait. Voilà. Donc, voilà, je dirais en centre qui est. Ma paire de centres qui respire d'intelligence, elle sera là, quoi. Et après, Fritz, oui, Fritz, moins de la blague, c'était quand même un excellent joueur. À Toulouse aussi énorme, mais un peu le bad boy de son époque du rugby, quoi.
Tout à fait.
Bah écoute, je pouvais pas mentionner quand même mon ami Monsieur
Ah
Bastereau
ouais.
parce que il me fait rêver, hein, on a le même poids et tout, donc franchement déjà je rêvais d'être 6 ou 7 et après lui il est 12-13, donc et franchement surtout au niveau de défense et les façons qu'il récupérait les ballons après un plaquage, je trouvais ça vraiment excellent.
Ouais, et puis Mathieu Bastaro, je suis d'accord pour lui rendre hommage parce que c'est un garçon atypique, avec un physique, c'est vrai, un peu improbable pour jouer à très haut niveau, et il a quand même fait une super carrière. Donc on aime bien se moquer de ses excès, de ses dreadlocks, mais c'est un vrai bon mec. Ça, tout le monde le reconnaît. C'est un garçon adorable et qui a fait une super belle carrière avec des. On a tous des très beaux souvenirs de Mathieu Bastaro sur le terrain. Donc après, il a eu une carrière effectivement un petit peu en dents de scie, comme celle d'un mec atypique, mais je suis d'accord, il a sa place.
Ouais, il a une carrière qui lui ressemble, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de bons souvenirs avec lui. Et puisque quand on parlait de nos demi-mêlées, on appréciait les aboyeurs. C'est vrai que quand il était capitaine à Toulon et que tu le voyais mais pourrir ses avants et que les avants mouffetaient pas, ça en dit long sur ce qu'il dégageait, quoi.
Allez, si on parlait des ailiers, en fait, moi, j'aimerais démarrer celle-là parce que la première personne que j'avais pensé, c'était quand même le petit Christophe Domenici, parce que franchement, il m'a fait rêver de voir, c'était le Shane Williams
Bah
français.
écoute, oui, bah tu moi j'y avais pensé aussi, enfin je voulais le citer aussi. Tu penses bien aussi parce que en tant que fan du Stade français, c'est un mec qui m'a marqué aussi, qui a marqué aussi en club, mais j'ai aussi j'ai ouais enfin c'est en équipe de France, son match en Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande. Pour moi qui ai découvert le rugby à ce moment-là, c'était un peu une légende, quoi, clairement, Dominici.
On a des magnifiques souvenirs avec lui. Moi, je ne l'ai pas gardé, mais c'est vrai qu'il est pas loin, et on a quelques coups d'éclat sublimes avec ce garçon. Moi, j'ai mis un mec de sa génération, Vincent Clerc, que je trouvais un poil plus régulier, et qui a été, bon, il est un peu plus jeune quand même, mais qui a été l'artisan de matchs aussi phénoménaux. Je me rappelle d'essais marqués contre les Anglais, contre les Irlandais à Croke Park, le premier match de l'équipe de France à Croke Park, où il marque cet essai en fin de match, mais rien que pour ça, il doit figurer dans ce 15-là. Et puis moi, j'ai mis également alors un Ntamack, mais pas celui qui joue actuellement, j'ai mis son père, Émile Ntamack, qui était un joueur un félin, un joueur chatoyant, exceptionnel. Moi, j'adorais ce joueur. Il avait marqué un essai dont je me rappellerai toute ma vie en Coupe du Monde contre les Écossais en match de poule, qui avait permis à la Coupe du Monde 95 à l'équipe de France de ne pas prendre les Blacks en quart de finale. Et voilà. Puis après, il a fait une telle carrière avec le Stade Toulousain également, que pour moi, c'est vraiment un joueur que j'ai adoré sous le maillot bleu.
Ouais, bah écoute, moi, pour le coup, je voulais être, enfin, j'avais du mal à être moins sérieux là, sur cela. Et aussi, je voulais citer Vincent Clerc en plus de Dominici, parce que, encore une fois, je vous le redis, mais dans les années où j'ai commencé à regarder à m'intéresser de plus près au rugby, en effet, tu avais ce match en Irlande. Enfin, il avait été, après le match dont tu parlais, je crois, surnommé le boucher des Irlandais. Il avait mis un doublé, il me semble. Je me souviens pas exactement de ce match, mais je me souviens qu'il avait été assez énorme. C'est vraiment le finisseur, quoi. En plus, il a une classe de gendre idéal. Et c'est quand même grâce à lui qu'on avait passé pour le coup, je garde quand même une petite blague, mais c'est quand même grâce à lui qu'on avait passé la demi-finale de la Coupe du Monde 2011, hein. Sans si Warburton l'avait pas soulevé et retourné,
Peut-être qu'on aurait
on serait peut-être pas été en finale, voilà. Donc,
Bon, et puis le meilleur pour la fin, Thierry.
Oui, ben en fait les arrières, en fait j'avais du mal à trouver une personne qui était vraiment juste arrière. Et pour je me disais, est-ce que Rougerie c'était considéré comme un arrière ou Médard ou
Non, 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 tu t'égares, Thierry, là. Les arrières, il n'y a pas de discussion. Honnêtement, les 14 premiers, tout le monde peut discuter. L'arrière, en équipe de France, il n'y en a qu'un. Indéboulonnable, c'est Serge Blanco. Et c'est pas possible d'avoir un autre avis. C'est un gars, il faut regarder sur YouTube Serge Blanco quand il jouait. C'est un garçon exceptionnel. En plus, il a une histoire personnelle marquante. Son père était vénézuélien. Il arrive très jeune en France. Sa mère était basque. Il est resté toute sa vie fidèle au Biarritz Olympique. Il a du coup pas été champion de France parce que le dernier match de sa carrière, il perd en 92 contre Toulon en finale. Le Toulon d'Yann Delegue qui avait 18 ans, qui jouait à l'ouverture et qui est le bourreau de Serge Blanco sur ce match-là. Mais n'ayant plus ses racines vénézuéliennes, il a profondément aimé ses racines basques. Il les a jamais renié. Et ensuite, c'est un gars qui a joué 10 tournois d'affilée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un tournoi entre 81 et 91 ou 82 et 92 dans lequel il n'était pas titulaire à la plupart des matchs. 10 tournois pour 6 victoires. Et c'est un joueur qui est unique dans sa manière de courir, toujours en avant, tu as toujours l'impression qu'il va tomber tellement il va plus vite que lui-même, en fait. Toujours en train de rentrer dans les intervalles, des jambes de feu, des mains d'une adresse exceptionnelle. Enfin voilà, pour moi, il ne peut pas y avoir photo sur ce numéro-là. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre que Serge Blanco. Maintenant, après cette tirade, vous avez le droit d'essayer.
Moi, j'ai plus envie de rien dire du coup. Non, non, mais bah, ouais, en fait, oui, c'est un peu l'évidence de la légende. Et évidemment que j'ai pensé à lui. Évidemment que je savais que vous alliez penser à lui. Et du coup, moi, je ne dirais que deux mots. Je dirais Richard Dourte en 15. Voilà. Faites-en ce que vous voulez.
Ah, j'aime bien ton 15, Charlie. Alors, du coup, parce que l'heure tourne, moi je voudrais quand même du coup dire mon 15. Parce que on a dit trop de noms, on a dit tous nos noms, mais je voudrais commencer. Alors, donc pilier gauche, Armand Vacrin. Talonneur, Raphaël Ibanez. Pilier droit, Robert Papa-Rambord. Deuxième ligne, Fabien Pelous, Abdel Benazi. Troisième ligne, Thierry Dussautoir, Jean Prat. Et allez, Imanol Arinordoki, parce que Marc Cécilion, je le mets sur le banc des remplaçants. Jacques Fourou à la mêlée, Franck Ménel en numéro 10, Yannick Jauzion et Philippe Sella au centre, Emilène Tamak et Vincent Clerc aux ailes, Serge Blanco à l'arrière. Et là, franchement, on peut voyager. Alors après, sur le banc des remplaçants, que je n'ai pas cité, j'avais envie de parler de William Servat, qui est un talonneur que j'ai adoré voir
Oui,
jouer et
moi
qui a
aussi.
été un grand monsieur. J'avais envie de parler de Christian Califano sur mes deux piliers. Vraiment, ce joueur des années 90 a été un joueur exceptionnel qui a beaucoup apporté au 15 de France aussi. Voilà, eux, ils sont sur le banc des remplaçants avec quelques autres. Guy Akosseberry à la mêlée, que j'adorais voir jouer également. Olivier Magne, dont on a parlé. Christophe Dominici, bien sûr. Et puis, peut-être, allez, Christophe Dello pour finir, avec ses chaussettes en bas et ses coups de pompe improbables. Il était génial aussi.
Et vas-y, Charlie,
Alors moi,
pour toi.
pour résumer ce petit 15, hein, qui est un peu mon 15 débouché, quoi, tu vois, donc il y avait Marconnet et Krenka à la pile qui entoure notre Moscato Fourchettos. Derrière, tu poussé par les cerveaux de Papé et Privat. Après, en troisième ligne, on a mis un peu de cerveau, malheureusement, parce qu'il faut que ça bouge, mais on a Betsen, Dussautoir, Arinordoki. Para à la mêlée, Lionel Boxis en 10. On a Fritz et Marty au centre qui vont déménager. On a encore un petit peu de délicatesse qui arrive avec Vincent Clerc à l'aile, accompagné de Dominici. Et derrière, pour fermer, Richard Dourte. Voilà, c'est mon 15 de l'intelligence. Avec sur le banc, pour continuer dans mon équipe de champion du monde de l'intelligence, je rajouterai quand même Olivier Merle, Éric Champ et Arnaud Mella. Paf, tu les mets là-dedans. Tu les mets là-dedans.
Je les adore tous les trois. J'ai joué
Ah,
contre
tu
Arnaud
l'adores.
Mella, qui était vraiment
Ouais, c'est
pas
quelque
du
chose.
tout marrant. Donc je te suis tout à
Voilà,
fait.
et tu sais pas si tu vas avoir du beau rugby, mais tu es sûr de pas t'ennuyer.
Et avant de partir, on a quand même eu la liste d'Alban aussi. Donc pour toi, Alban, donne-nous ta liste complète.
C'est parti pour mon 15 de France. Deux rêves. Donc première ligne, Marconnet, Ibanez, Mas. Deuxième ligne, Pelous, Benazi. Troisième ligne, Betsen, Dussautoir. En numéro 8, Picamol. Et ensuite, on passe à la ligne de trois quarts. Donc Galtier en 9. À l'ouverture, La Maison. La paire de centre, Josion, Rougerie. Aux ailes, Claire, Bernatsal. Et à l'arrière, Serge Blanco.
Parfait, merci.
Ben voilà.
Avec ces compositions, vous avez des visions un peu opposées. N'hésitez pas à nous donner votre avis, voilà, sur les pages Facebook, Twitter. Faites tout ce que vous voulez. Ça nous amusera beaucoup de voir si on a oublié aussi des grands joueurs et d'avoir votre avis.
Oui, donc merci les gars et Alban aussi, bien sûr. En fait, il y avait plein de noms que je connaissais pas, donc il faut chauffer le YouTube là pour essayer de trouver des noms que tu nous
C'est fait pour
ah
ça.
ouais, que tu nous as filés, surtout Théo et Charlie quand même, parce qu'il y avait beaucoup des personnes que je connaissais pas de tout. Donc merci beaucoup les gars.
Et puis Thierry, toi, tu n'arrêtes plus les podcasts. Là, tu es lancé comme un frelon, comme dirait Moscato au Moscato Show. J'ai l'impression que tu fais du podcast sur autre chose en ce moment.
Oui, exactement, comme on a dit la dernière fois. Donc là, j'ai commencé un podcast avec mes enfants, parce que c'est moi qui m'en occupe des enfants en ce moment. Donc j'ai lancé un podcast, un en anglais qui s'appelle Covid Kids et un autre qui s'appelle Covid Kids France. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'on fait un petit podcast de 5 minutes plusieurs fois par semaine pour parler un petit peu de comment est-ce que nous, on vit cette confinement. Donc voilà, donc vous pouvez
Je
écouter.
suis un de tes abonnés,
Voilà, bah
Thierry.
parfait. Vous pouvez écouter en famille, c'est fait pour. Donc vous pouvez trouver ça sur bien sûr Apple, Spotify, tous les mêmes endroits où vous pouvez trouver bien sûr Pack de potes.
Enfin, une fois que vous êtes abonné à Pack de potes, hein, seulement,
Il y a des
c'est
priorités quand
Oui,
même.
voilà. Dans l'ordre, ok, dans l'ordre Pack de potes. Et après, si vous avez des enfants, Covid Kids France. Mais en fait, ce qui est super chouette par rapport à ça, c'est qu'on découvre tous les pays qu'ils écoutent. En fait, ça c'est pour les enfants, c'est comme un cours de géo. En fait, donc tiens, regarde. Alors c'est où le Malaisie? Tiens, on va regarder où c'est le Malaisie.
Ça
C'est
tombe
assez
bien,
marrant.
parce que comme vous
Génial.
êtes tous reconvertis en prof depuis 3 semaines, tu peux faire des cours
C'est
de
ça.
géographie.
Voilà, c'est ça. Oui, Charlie, alors je suis très fier de notre ancienne équipe de rugby, Ocean Rugby Club, et notamment Roberto, qui est docteur à l'hôpital de Saint-Maries. Ils ont récemment fait un appel aux dons.
Oui, absolument. C'est l'initiative du club et donc relayée par notre copain Roberto. Et c'est pour une petite collecte de dons pour aider le personnel soignant de l'hôpital, des hôpitaux Saint-Maurice à acheter des crèmes hydratantes, des bons repas, des machines à café, enfin plein de petites choses qui vont les aider à supporter un peu de façon un peu plus agréable cette période très difficile et intense qu'ils traversent. Et donc voilà, c'est un soutien à ceux qui sont, comme on dit, en première ligne
Ouais.
et qui prennent de plein de fouet cette période un peu compliquée.
Donc, vous pouvez trouver ça sur notre Facebook. N'hésitez pas à cliquer et donner. Donc, bien sûr, merci à tout le monde qui travaille en ce moment. Donc, ça veut dire les docteurs, les infirmières, tous les équipes soignantes, tous les métiers essentiels.
Ouais, bien sûr, tous les métiers essentiels, aussi ceux qui permettent qu'on puisse continuer à acheter, à manger et tout. Nous, notre métier, notre travail pendant ces périodes difficiles, c'est de rester à la maison. Et si en restant à la maison, on peut, à travers des dons, dont celui de nos copains de l'OSR Rugby Club, les aider à mieux supporter cette période difficile, bah, c'est tout ce qu'on peut faire. Et on va essayer de le faire.
Rester à la maison et faire des podcasts.
Exactement, ouais. On peut à la fois faire des dons et des podcasts en restant à la maison. C'est quand même la belle vie.
Bon, les gars, comme toujours, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver, et nous, chers écouteurs, aussi.
Ouais, hâte de vous retrouver vite, de toute façon, le temps s'étire, donc on va vite arriver, mais n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager, et surtout, on a tous envie de savoir votre 15 de légende, ou pour voir si vos critères sont plus proches du jeu ou de la maroufle. Donc on attend vos commentaires.
Merci à tous, on était super contents de passer ce moment avec vous, à très bientôt les gars.
Toujours un plaisir, ciao les copains.
Ciao.